VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonjour à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Le nom du vainqueur de l'élection à la présidence du Congrès national africain, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, devrait être connu dans la journée d'aujourd'hui à l'issue d'un vote qui s'annonce très serré. Le vainqueur désigné par une majorité des 4776 délégués réunis à Johannesburg devrait en toute logique succéder au président Jacob Zuma à la tête du pays en 2019. Le scrutin est perçu par de nombreux Sud-Africains comme l'événement politique le plus important depuis la fin de l'apartheid et l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela en 1994. Deux candidats ont sans surprise été officiellement nommés dimanche soir, le vice-président Cyril Ramaphosa, ancien dirigeant syndical et l'une des plus grandes fortunes du pays, et l'ex-épouse de Jacob Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma, ancienne ministre soutenue par l'actuel chef de l'État. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a ordonné le règlement de 2 mois d'arriéré de salaire de novembre et décembre 2013, conséquence des négociations satisfaisantes avec le Fonds monétaire international, le FMI. Le FMI avait vendredi annoncé avoir approuvé le versement d'une troisième tranche d'un prêt de 40,2 millions de dollars à la RCA, ainsi que l'augmentation de son programme d'aide à ce pays. Cette nouvelle tranche a été débloquée dans le cadre de la facilité de crédit négociée en juillet 2016, selon un communiqué du FMI. Au Gabon, les forces de sécurité ont procédé à plusieurs dizaines d'arrestations dimanche. C'est au lendemain d'une attaque à l'arme blanche qui a blessé 2 Danois. Le Conseil islamique du Gabon a condamné cette attaque. Idriss Fall.
Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a condamné l'attaque hier au couteau perpétré contre 2 Danois. L'imam Hosseini Ossa a rappelé que l'islam enjoint à tout musulman de respecter la vie. Il a demandé au gouvernement de réprimer l'auteur ou les auteurs de cette agression. Hier, la police et la gendarmerie ont bouclé le village artisanal, un marché pour touristes à Libreville. Tous les commerçants, presque tous originaires d'Afrique de l'Ouest, ont été conduits à la police pour interrogatoire. La veille, un Nigérien criant Allahu Akbar a poignardé 2 citoyens du Danemark. L'assaillant, âgé de 53 ans, vivait au Gabon depuis 19 ans. Selon les officiels gabonais, il dit avoir agi en représailles aux attaques des États-Unis contre les musulmans et à la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais jusqu'à hier, les autorités gabonaises n'avait pas encore utilisé publiquement le qualificatif d'attaque terroriste ou djihadiste.
Au Togo, la coalition de l'opposition qui a manifesté samedi dernier se targue d'avoir mobilisé 1 million de personnes dans les rues de Lomé. Depuis 4 mois, des militants et sympathisants de l'opposition sont dans la rue, ce qui n'est pas sans incidence sur les activités économiques. Reportage à Lomé, notre correspondante Kaï Lasson.
Tous les jours, clients marchent. Si vous prenez l'avenue de la Libération, si vous allez un peu dans la zone de Décon, les magasins sont fermés. Avons-nous besoin de briser le commerce?
C'est un constat sur lequel revient le ministre de la fonction publique Gilbert Barra, qui se demande s'il faut encore continuer les manifestations du moment où les avancées sont faites pour aller au dialogue. Selon le gouvernement togolais, une journée de manifestation constitue un manque à gagner de plus de 500 millions de francs CFA pour le Togo. Depuis 4 mois, les activités économiques tournent au ralenti, comme l'affirment ces commerçantes.
Nous avons un sérieux souci.
Tout ce que nous avons perdu, nous n'arrivons même pas à les quantifier. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour que nos activités n'en soient pas aussi atteintes? Donc aujourd'hui, nous réfléchissons vraiment.
C'est vraiment, vraiment déplorable parce que nous craignons fort que nos clients nous quittent.
Samedi dernier, la coalition de l'opposition a tenu sa 20e manifestation de rue depuis le 19 août 2017. Kofi Agbenou, devant sa boutique, légèrement ouverte à Décon, dit comprendre le sens des manifestations.
Nous ne sommes pas là pour exposer ou bien pour vendre. Pour que la condition s'améliore, il faut que le pays même change d'abord. Et si on dit le pays change, il faut qu'on arrive à avoir une atmosphère plus tempérée. Et si les choses changent vraiment depuis le haut, nous aussi, notre quotidien aussi va changer.
Face aux accusations selon lesquelles la coalition de l'opposition veut asphyxier l'économie togolaise, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, se défend.
Dire que est-ce que nous avons décidé d'asphyxier l'économie togolaise? Non. Nous mobilisons les populations pour obtenir l'instauration de la démocratie et l'état de droit au Togo. Nous ne pouvons pas décider d'asphyxier l'économie togolaise. Nous sommes des Togolais. Ça fait des années, des dizaines d'années que l'économie togolaise est par terre.
Pour Olivier Kouami, de l'entente des spécialistes togolais en technologie de l'information et de la communication esthétique, il ne faut pas oublier les jours de blackout de l'Internet qui ont sérieusement porté un coup dur à l'économie du pays.
Selon une étude de l'ONG Access Now, une rupture d'Internet coûte à peu près 300 000 à 400 000 dollars US de pertes par jour pour un pays comme le Togo. 5 jours sans Internet, c'est 5 jours de léthargie, c'est 5 jours d'inactivité commerciale. C'est énorme.
Beaucoup d'opérateurs économiques souhaitent qu'une pause soit observée durant la période des fêtes, mais la coalition ne s'est pas encore prononcée clairement sur une tenue des manifestations lors des 15 prochains jours. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Cameroun, il y aura désormais un seul manuel scolaire inscrit au programme pour chaque matière selon le contenu d'un décret du Premier ministre signé récemment. Éditeurs, enseignants, libraires et responsables d'établissements s'en réjouissent. Le cas de Vincent de Paul, il est responsable chez les éditions clés.
Tel que ça marchait jusqu'à présent, vous verrez des distributeurs qui deviennent éditeurs, attirés certainement par l'appât du gain facile, parce qu'on a quelques personnes qu'on connaît dans la commission qui, par des subterfuges, vont faire passer des ouvrages à la commission. Vous verrez les imprimeurs devenir éditeurs. Vous verrez les enseignants qui ont produit des ouvrages qui s'auto-éditent et qui deviennent éditeurs. Vous verrez des inspecteurs pédagogiques qui sont parfois des auteurs et qui deviennent éditeurs. Bref, on se retrouve dans une sorte d'Eldorado où on retrouve tous les chasseurs de primes. Il y aura certainement un tamis qui va s'opérer. On pourrait voir émerger véritablement des gens qui se disent éditeurs.
Vincent de Paul, Lélé, responsable chez les éditions clés au Cameroun. Le maire de Misrata, troisième plus grande ville de Libye, a été tué dimanche soir après avoir été enlevé par des inconnus. Mohamed Echtehoui a été poursuivi et enlevé à sa sortie de l'aéroport de Misrata à 200 km à l'est de Tripoli. Précisant les services de sécurité de la ville, précise que le cadavre avait ensuite été abandonné dans la rue. L'hôpital de la ville a confirmé avoir reçu le corps portant des impacts de balles. Ici aux États-Unis, l'électricité est revenue à l'aéroport d'Atlanta, le plus important du monde, où une énorme panne a affecté des centaines de vols et des milliers de passagers. Ont annoncé les autorités aéroportuaires, plusieurs milliers de passagers ont été affectés. L'aéroport a indiqué que 5000 repas avaient été servis. En attendant la reprise des activités, aucune indication n'a été fournie sur le temps nécessaire à la reprise normale du trafic. À Washington, il est 6h07. Le président sortant du Honduras, Juan Orlando Hernández, a été officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 26 novembre. Le tribunal électoral du pays affirmant avoir traité tous les recours déposés depuis le scrutin. Juan Orlando Hernández a vaincu son adversaire de centre-gauche, la vedette de télévision Salvador Nasralla, avec un écart de 1,53 points de pourcentage selon le décompte officiel. La campagne électorale a officiellement débuté aujourd'hui en Russie, où l'élection présidentielle se tiendra le 18 mars, avec pour favori le président russe Vladimir Poutine, candidat pour un quatrième mandat. Arrivé au pouvoir en 2000, Vladimir Poutine a annoncé être candidat à un quatrième mandat, ce qui, en cas de victoire, le placerait à la tête du pays jusqu'en 2024 et ferait de lui le dirigeant russe à la plus longue longévité au pouvoir après Joseph Staline. Son principal opposant, Alexei Navalny, ne pourra vraisemblablement pas se présenter en raison de plusieurs condamnations de justice. Selon la présidente de la commission électorale, 23 candidats ont jusqu'à présent exprimé le souhait de participer à l'élection présidentielle. Aucun d'eux n'est crédité de plus de 10% d'intention de vote selon le sondage du centre Levada. Et puis, le procès en Belgique de Salah Abdeslam, reporté au 5 février 2018, le procès du seul survivant des commandos qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015, qui devait à l'origine s'ouvrir donc aujourd'hui pour 4 jours, est reporté à la demande de son avocat, Metzven Marie. Et puis une attaque armée était en cours ce matin dans l'ouest de Kaboul contre un centre d'entraînement militaire des services de renseignement afghans, les NDS. Les médias ont été tenus à l'écart de la zone entièrement bouclée par les forces de sécurité. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.